Éclat de livre.
Bonjour à tous et bienvenue dans Éclat de livre, l'émission pour croquer dans la littérature jeunesse sur les ondes de Radio G. Rendez-vous un dimanche sur deux à 17h pour évoquer autour d'un thème des livres pour enfants, petits et grands. Il y a un peu plus de 90 ans, 91 ans et 15 jours pour être précise, naissait Martin Luther King. Il fut lauréat du prix Nobel de la paix et il est mort assassiné en 1968. C'était il y a longtemps, bien avant ta naissance et la mienne. C'est pour ça que je t'en parle, parce que ce temps-là paraît loin. Aujourd'hui, je te propose de partir dans le sud profond des États-Unis, où pendant très longtemps, les gens n'étaient que des couleurs. Il y avait d'un côté les blancs, ceux qui du fait de leur peau claire contrôlaient tout, et de l'autre les noirs, ceux qui étaient nés pour travailler sans ne jamais rien posséder. Au programme de notre émission, trois livres pour découvrir l'histoire d'hommes et de femmes qui se sont battus pour conquérir leur liberté et qui n'avaient que leur voix pour se donner du courage. Claude Nougaro, Armstrong.
Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Quand on veut chanter l'espoir, quel manque de peau. Oui, j'ai beau voir le ciel, l'oiseau, rien de lui là-haut. Les anges, zéro. Je suis blanc de peau.
Si tu as écouté attentivement les paroles de la chanson, tu as dû entendre qu'il est question d'oiseaux. Des oiseaux, il y en a aussi sur la couverture de l'album
« Henri et la liberté » de Hélène Levin, illustré par Cardir Nelson et publié par les éditions des éléphants.
On ne les voit pas tout de suite parce qu'ils volent au loin, haut dans le ciel, libres d'aller où ils veulent. Et le petit garçon noir qui nous regarde sur la couverture, intensément et droit dans les yeux, c'est le jeune Henri qui leur tourne le dos.
Henri Brown ne savait pas très bien quel âge il avait. Henri était un esclave et les esclaves n'avaient pas le droit de connaître la date de leur anniversaire.
Henri et ses frères et sœurs travaillaient dans la grande demeure où habitait le maître. Le maître d'Henri était bon avec lui et sa famille. Mais la mère d'Henri savait que cela pouvait changer. Vois-tu ces feuilles qui sont emportées par le vent ? Elles sont arrachées des branches comme les enfants d'esclaves sont arrachés à leur famille.
Est-ce que tu sais ce que c'est un esclave ? C'est une personne qui n'est pas libre, mais qui est la propriété d'un autre. Un esclave doit travailler très dur pour son maître, sans être payé. Au milieu du XIXe siècle, il y avait environ 4 millions d'esclaves aux États-Unis, ce qui représente beaucoup de monde. Des hommes et des femmes noirs, mais aussi leurs enfants. Ils demeuraient majoritairement dans le sud du pays, pour travailler dans les champs de coton ou de tabac. Ils appartenaient à de riches propriétaires blancs, qui les considéraient comme des marchandises. Ils pouvaient les vendre, les échanger, et les utiliser comme bon leur semblait. Ça paraît incroyable, n'est-ce pas ? Mais revenons à Henri. En grandissant, il a été vendu par son maître et a dû quitter sa mère et sa famille.
Henri travaillait dans la fabrique de son nouveau maître. Il était doué. « Ne déchire pas ces feuilles de tabac !» cria le maître au petit nouveau. Il lui donna un petit coup du bout de sa canne. « Si l'on faisait une bêtise, le chef vous battait. » Henri se sentait seul. Un jour, il fit connaissance de Nancy, qui faisait les courses pour sa maîtresse. Ils bavardèrent en continuant leur chemin et décidèrent de se revoir. Henri avait envie de chanter. Mais les esclaves n'osaient pas chanter dans les rues. Il se contenta de fredonner en rentrant chez lui. Des mois plus tard, Henri demanda à Nancy de devenir sa femme. Lorsque leurs deux maîtres eurent accepté, Henri et Nancy se marièrent. Très vite, ils eurent un bébé, puis un autre et encore un autre. Henri savait qu'ils avaient de la chance. Ils avaient des maîtres différents, mais ils habitaient ensemble. Mais Nancy était inquiète. Son maître avait perdu beaucoup d'argent. « J'ai peur qu'ils vendent nos enfants, » dit-elle.
Ils vont malheureusement être séparés et Henri ne les reverra plus jamais. Il décide de s'enfuir pour rejoindre le nord du pays. Il veut aller dans une ville qui s'appelle Philadelphie, parce que là-bas, les personnes noires sont libres. Évidemment, il ne peut pas prendre un train ou faire du stop, il serait tout de suite arrêté. Mais il a une idée très astucieuse. Il décide de s'expédier par courrier dans une grande caisse. Étonnant, n'est-ce pas ?
Le soleil n'était pas encore levé quand Henri se glissa dans la caisse. « Je suis prêt, » dit-il. James se cloua le couvercle. Le docteur Smith et James transportèrent la caisse à la gare. L'employé du chemin de fer la retourna et cloua un papier sur le fond. Le docteur Smith supplia les hommes de faire attention, mais ils n'écoutèrent pas. Ils jetèrent la caisse dans le wagon de marchandises. Des heures passèrent. Henri fut de nouveau soulevé et jeté sans ménagement, la tête en bas. Il entendit des clapotis de vagues. Ce devait être le vapeur qui partait pour Washington. Le navire avançait doucement, mais Henri était toujours la tête en bas. Le sang lui montait à la tête. Il avait les joues en feu. Ses yeux lui faisaient mal. Il crut que sa tête allait éclater, mais il avait peur de bouger, au cas où quelqu'un l'entendrait.
Ce voyage va durer 26 heures, c'est-à-dire un peu plus d'une journée entière. Plus tard, Henry Brown le racontera à de nombreuses reprises et deviendra célèbre. Il incarne tous ces esclaves qui eurent le courage et la chance de s'échapper. On a appelé leur chemin vers la liberté le train fantôme. Il ne s'agit pas d'un vrai train, tu t'en doutes, ni de fêtes foraines, mais des itinéraires secrets que ces fugitifs empruntaient pour gagner le Nord, où ils seraient libres. Avec ces illustrations magnifiques et très réalistes, et grâce aux textes simples et bouleversants, cet album nous permet de découvrir l'histoire vraie de Henry Box, comme boîte, Brown. À travers lui, nous comprenons l'existence terrible des esclaves noirs américains et leur désir de liberté. Je vous propose d'écouter Nina Simone, une grande chanteuse de blues noir. Dans sa chanson « Feeling Good », elle annonce l'arrivée de jours meilleurs et elle parle de liberté, justement. Liberté, ça se dit « freedom » en anglais.
I feel river running free. You know how I feel. Blossom on the tree. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
Quand tu joues du blues, Minnie, c'est comme si tu riais et tu pleurais en même temps. Le blues, c'est comme un tout petit nuage dans le beau ciel de l'après-midi. Un petit nuage tout fin, tout blanc, mais qui te serre le ventre sans que tu saches trop pourquoi. Tu comprends ? Mais le blues, c'est aussi comme une éclaircie qui traverse un orage ou comme une cerise juteuse sur un gâteau trop sec. Ça peut te faire rire aux éclats quand tu devrais tomber, les genoux dans la boue, tu vois ?
Celui qui parle de musique avec autant de passion, c'est Curtis, un musicien vagabond qui fait vibrer les cordes de sa guitare avec une lame de couteau. Avec sa fille Minnie, il parcourt les routes du sud des États-Unis y joue ce qui s'appelle alors la musique du diable, le blues, pour qui veut bien les écouter. Comme le raconte Minnie, cette musique est très populaire dans les plantations de coton où les ouvriers noirs chantent pour se donner du courage.
Ces chants de travail, j'avais beau les avoir entendus des centaines de fois, ils me serraient le cœur quand même, et plus fort encore au crépuscule, quand le meneur chantait et que tous les ouvriers lui répondaient en abattant d'un même élan leur hache contre le bois sec. Ça avait quelque chose d'envoûtant. Ça résonnait jusqu'au ciel jaune. Dans toutes les plantations, c'était la même rengaine. Les ouvriers chantaient pour trouver la force de terminer leur journée, identique à celle de la veille, et presque aussi pénible que celle qui leur briserait le dos le lendemain.
Nous sommes dans les années 1940. Les temps ont évolué depuis l'époque de Henry Brown. L'esclavage est interdit depuis 1865. Pourtant, dans le sud des États-Unis, la situation n'a pas beaucoup changé. Il n'y a plus d'esclaves, c'est vrai, mais à présent, il y a la ségrégation. Cela signifie que les blancs et les noirs sont séparés et n'ont pas le droit de se fréquenter. Les noirs, toujours pauvres, continuent de travailler pour les propriétaires blancs dans des conditions misérables. Et certains blancs, particulièrement racistes, font régner la terreur. Ce sont les membres d'une organisation secrète, le Ku Klux Klan, qui se dissimulent derrière de grandes capuches blanches pour pourchasser les noirs et mettre le feu dans les lieux qu'ils fréquentent, notamment les églises.
Des flammes immenses nous encerclaient. On ne pouvait pas fuir. La peinture des murs de l'église commençait à s'écailler. Les gens se jetaient à genoux pour prier. Ceux qui s'étaient évanouis avaient repris connaissance. Le feu a d'abord avalé la porte, puis une partie du porche s'est effondrée. Le pasteur a hurlé.
« Regroupez-vous ! Regroupez-vous ! Venez !»
Tout le monde s'est agglutiné autour de lui, comme s'il était le seul à pouvoir mettre terme à cette horreur. Tout à coup, quelqu'un m'a attrapé le bras et m'a tiré vers le fond de l'église. Mon père a laissé faire, mais il n'a pas bougé, lui. Il se tenait toujours devant la porte en feu. À travers l'ouverture béante creusée par le feu, on voyait sur le perron des dizaines de capuches pointues qui s'agitaient en brandissant des torches. Il y avait des hommes sous ces capuches. Ils nous insultaient, ils nous traitaient d'animaux. Ils riaient de nous voir coincés.
Ce climat de violence, Minnie et son père le découvrent en arrivant dans une plantation de coton, dirigée par un contremaître irlandais réputé sanguinaire, et son compère dit gros point. C'est pourtant d'Elwin, le fils de l'Irlandais, que Minnie tombe éperdument amoureuse. Tout sépare ce garçon timide et blanc et cette fille impétueuse et noire, à qui un sorcier Yoruba a un jour prédit.
« Toi petite, tu chantes comme un oiseau. Ta voix s'envolera bientôt au-dessus des montagnes. »
S'inspirant du thème éternel de Roméo et Juliette, le puissant roman de Tristan Coëgel,
Bluebird,
édité par Didier Jeunesse,
raconte leur histoire. À travers cet amour contrarié, ils brossent un portrait captivant du sud des États-Unis, terre du pire, la ségrégation, comme du meilleur, le blues. Nous écoutions le gospel « We shall overcome », ce qui signifie « nous triompherons ». Ce chant porteur d'espoir est devenu l'hymne du mouvement pour l'égalité des droits aux États-Unis. Il a été entonné par John Baez juste avant un discours célèbre de Martin Luther King. Tiens, tiens, tu te souviens que je t'ai parlé de lui au début de l'émission ? Il est temps maintenant de te raconter son histoire. Elle est indissociable de celle d'une femme courageuse et noire elle aussi, Rosa Parks. Ensemble, ils ont lutté pour mettre fin à la ségrégation dans le sud des États-Unis.
À 11 ans, Rosa part étudier à Montgomery, la capitale de l'Alabama. Tout dans la ville sépare blanc et noir. La ségrégation impose sa loi. Il y a les fontaines pour les blancs et les fontaines pour les noirs. Partout, dans les ascenseurs, les cafés, aux toilettes, aux guichets des cinémas, on trie les gens suivant la couleur de leur peau. Même les écoles séparent les enfants.
Pendant ce temps, à Atlanta, une autre ville du Sud, un petit garçon ouvre les yeux sur le monde. Et dans quelques années, le monde entier entendra parler de lui. C'est Martin. Martin Luther King Jr. Il est intelligent, sensible, parfois un peu rebelle. Pourtant, le jour où deux petits voisins blancs lui annoncent qu'ils n'ont plus le droit de jouer avec lui, il reste muet. Parce que ses parents sont moins pauvres que la plupart des Noirs du pays, Martin a la chance de faire ses études dans le Nord, à Boston. Comme son père et son grand-père, il choisit de devenir pasteur et se dévoue à la cause du peuple noir. Puis, il décide de redescendre dans le Sud raciste, à Montgomery, car c'est là qu'il y a le plus à faire pour les droits civiques des Noirs.
Chacun à leur manière, Rosa et Martin ont envie d'en finir avec les violences et l'injustice envers les Noirs.
Dans les bus de Montgomery, les Noirs ont l'obligation de céder leur place aux Blancs. Une humiliation qui se répète deux fois par jour, 6 jours par semaine, pour ceux qui vont travailler. Le 1er décembre 1955, Rosa attend le bus. Elle est fatiguée de sa journée de travail. Fatiguée de tout ce qu'elle doit subir chaque jour avec ses frères et sœurs de couleur. Le bus arrive. Toutes les places du fond destinées aux Noirs sont occupées. Alors Rosa s'installe sur un siège libre dans la section du milieu, là où les Blancs sont prioritaires. Un homme blanc ne tarde pas à lui réclamer sa place. Rosa est fatiguée de céder. Aujourd'hui, elle n'ira pas s'entasser dans le fond du bus. Rosa serre les poings. Le chauffeur lui ordonne de libérer immédiatement sa place. Rosa n'a pas peur. « Non !» répond-elle calmement. « Bien, j'appelle la police. Faites ce que vous avez à faire. »
C'est ainsi que Rosa, femme discrète et respectée, se retrouve en prison. C'est un choc décisif qui va avoir des conséquences imprévues. C'est sûr que si le chauffeur blanc l'avait su, il n'aurait pas appelé la police. Écoute la suite.
Le dimanche qui suit, Martin Luther King et les autres pasteurs de la ville incitent leurs fidèles à ne plus prendre le bus. Des tracts sont distribués à la population. Très vite, le message se propage. Dès le lendemain, les travailleurs noirs, les écoliers noirs, toutes les personnes noires de Montgomery s'emparent des trottoirs de la ville. Et les bus restent vides.
On appelle cela un boycott. Il va durer très longtemps. 381 jours exactement, avant que l'État d'Alabama ne supprime sa loi raciste. Autant de jours à marcher pour aller rentrer du travail ou de l'école. Cette victoire est la première de la longue route vers l'égalité des droits entre les Blancs et les Noirs. Une route parfois dangereuse. Pourtant, jamais Martin Luther King ne renoncera à son principe.
Nous devons répondre à la violence par la non-violence.
Cette histoire, vous pouvez la retrouver dans le livre
« Martin et Rosa ». Martin Luther King et Rosa Parks, ensemble pour l'égalité.
Un album de Raphaël Frié, illustré par Zahu et édité chez Rue du Monde.
Il est temps de nous quitter. Aujourd'hui, dans Éclat de livre, nous avons lu, aimé et vibré avec Henri et la liberté, un album de Hélène Levine illustré par Kadir Nelson et édité par les éditions des éléphants, à lire à partir de 7 ans. Martin et Rosa, un album de Raphaël Frié illustré par Zahu et disponible chez Rue du Monde, à découvrir à partir de 9 ans. Et enfin, Bluebird, un roman de Tristan Koegel disponible chez Didier Jeunesse à partir de 12 ans. Vous pouvez retrouver ces 3 livres dans toutes les bonnes librairies ou à la bibliothèque. Si vous voulez réécouter l'émission, elle est en ligne sur le site internet de Radio G. Éclat de livre, une émission préparée et présentée par Margot, avec la joyeuse collaboration de Solène, Ondine et Mao. Merci à elle. La musique que vous entendez en ce moment pour le générique est le morceau Maya du groupe Yappa.
Éclat de livre, c'est fini pour aujourd'hui.
Passez une très bonne semaine. On se retrouve dimanche dans 15 jours à 17h sur Radio G pour un nouveau goûter littéraire.